Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et c'est un sommaire chargé qui vous attend en ce 4 décembre dans Chut, on écoute la télé avec pas moins aujourd'hui de deux coups de cœur ciné cette semaine. Le premier consacré à Bâtiment 5, le nouveau film de Lajli qui sera notre invité dans une poignée de secondes accompagné de Nabil Akroudi et de Anta Diao, l'héroïne du film. En fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné consacré à Soudain Seul. Thomas Bideguin, le réalisateur, sera accompagné de Mélanie Thierry et seront nos invités. Nos coups de cœur télé cette semaine avec Médicine Sadoun pour Enquête Parallèle qui sera diffusée samedi soir à 21h10 sur France 3. On va parler également du très beau téléfilm Répercussions qui sera diffusé mercredi soir à 21h10 sur France 2 avec les producteurs qui seront avec nous, Camille et Yann. Et puis on aura Virginie Wagon, la réalisatrice, et Marie Desnarnaud qui seront nos invités exceptionnels. Et puis on va parler de L'Art du Crime qui revient ce soir sur France 2 avec Éléonore Bernheim qui sera notre invitée. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. C'est parti avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré à Bâtiment 5 qui sort mercredi au cinéma. Et on a la chance d'avoir toute une partie aujourd'hui de l'équipe Lajli qui est avec nous. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
Anta Diao qui est avec nous aussi, qui joue le rôle principal, celui de Abby. Bonjour Anta.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis Nabil Akroudi également qui est avec nous. Bonjour Nabil.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois pour ce film qu'on a eu la chance de découvrir avant tout le monde au Festival de Sarlat il y a maintenant trois bonnes semaines. Franchement, on a passé un super moment, même si le sujet est difficile aujourd'hui et qui est assez le reflet d'une société aussi actuelle. Et ce que j'aime aussi dans tes films avant tout, je pense, là déjà, c'est vraiment l'authenticité qui s'en dégage aussi.
Oui, bien sûr. Moi, j'essaie de faire un cinéma qui reste très authentique, un cinéma qui parle de ma vie, de la vie des habitants des quartiers, leur parcours, leurs différentes problématiques. Donc ça reste un cinéma qui reste quand même assez engagé.
Oui, presque proche du documentaire par moment. Et c'est vrai qu'on a, voilà, c'est une vision très très réaliste du coup.
Bien sûr, moi je viens du documentaire. Avant de faire ma première fiction, j'ai tourné énormément de documentaires. Et dans ma fiction, j'avais envie d'apporter ce côté documentaire très réaliste, proche des gens et très authentique. Donc on peut retrouver une petite partie documentaire dans ma fiction.
Alors on va parler évidemment de l'histoire dans quelques instants, mais déjà moi j'aimerais savoir, Anta et Nabil, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Latch? Qu'est-ce qui vous a fait dire oui tout de suite en tout cas? On commence par Anta, honneur aux femmes.
Bien sûr. absolument tout. Déjà rien que le scénario, une histoire aussi forte portée à l'écran, c'est pas anodin. Et puis forcément le personnage d'Abby, un personnage aussi fort, aussi déterminé qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma, c'était forcément une opportunité en or à laquelle on pouvait absolument pas dire non.
Pour toi Nabil?
Bah pour moi,
même si la partition est pas énorme, mais elle est cruciale puisqu'elle est dès le début du film.
Bah je suis le personnage principal de la première partie du film, de la première scène. C'est moi le personnage principal et après Ladj il a fait le reste du film derrière. Mais sinon je reste le personnage principal du film. Et non, en fait réellement pourquoi j'ai participé à ça, déjà Ladj et moi, on se connaît depuis notre enfance et on a grandi ensemble dans ce fameux bâtiment 5. Donc c'est une histoire qui me touche aussi personnellement. Donc le fait qu'il m'appelle pour participer à ce projet, ça m'a touché déjà premièrement et ça me tenait à cœur aussi de participer avec lui sur ce projet-là, quoi.
Alors, tout démarre par une explosion d'un immeuble, par un maire qui succombe à une crise cardiaque aussitôt. Et donc, un nouveau maire va être élu et va mener la vie dure à ses habitants du bâtiment 5 et va commencer une véritable chasse aux sorcières, hein, presque, hein, je dirais, de la part de ce maire et de ce premier adjoint qui vire quand même un peu sa cutie, hein, on peut le dire comme ça, ce fameux Roger Ladj.
Oui, bien sûr, à l'image du personnage de Roger, qui à la base était quelqu'un qui s'intéressait à la politique et avait envie de s'engager pour faire changer les choses dans son quartier, on se rend compte qu'à partir du moment où on met les pieds en politique, on rentre dans un espèce de moule et on finit par devenir tout pourri. Et c'est ce que le personnage raconte. C'est quelqu'un qui pense avant tout à sa carrière, à ses projets personnels et je trouve ça regrettable. Et malheureusement, c'est des personnages qui existent vraiment dans la vraie vie, quoi.
Oui, on en connaît un petit peu tous, effectivement. Alors, Anta, le rôle d'Abby, il est quasiment tout le long du film. Comment on vit un tournage comme ça ?
Intensément, c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est hyper intense, c'est 3 mois de tournage de manière assez effrénée, mais c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur pour moi qui suis passionnée de jeu, de pouvoir participer à un tel projet avec Ladj, sachant tout ce qu'il a fait auparavant et sachant les messages qu'il porte à l'écran, c'est forcément un honneur.
Alors, si Les Misérables étaient, on va dire, l'adaptation de ton court-métrage, là, pas du tout, on est vraiment sur une création totale, hein, sur Bâtiment 5. Où est venue l'idée ? À quel moment tu t'es décidé justement à co-écrire cette histoire, notamment ?
L'idée est venue à partir du moment où j'ai commencé à écrire Les Misérables. En écrivant Les Misérables, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à raconter que je me suis dit que j'allais en faire une trilogie. Donc le premier volet, c'était Les Misérables, qui était assez actuel, on était en 2018. Bâtiment 5, mon deuxième film, on est plus dans les années 2005. Et le dernier volet, là, on sera plus dans les années 90. Et l'idée, c'était de raconter ce territoire sur ces 30 dernières années et raconter ce qu'on a pu vivre, nous les habitants de ces quartiers.
Une évolution qui n'est pas toujours effectivement là comme il faut, quoi.
Oui, l'évolution qui est plutôt dramatique. On pense qu'avec les temps, les choses s'arrangent, mais finalement, on se rend compte que c'est de pire en pire. Donc, on a quand même nos politiques qui nous ont totalement abandonnés et qui ont totalement abandonné ces quartiers, qui des années après les avoir abandonnés, ont exproprié les habitants pour loger d'autres personnes. Et c'est assez dramatique.
Alors, il y a toute une famille autour de Abby, évidemment, et Abby, c'est vraiment la battante de la famille, c'est vraiment la femme forte, c'est vraiment celle qui a décidé de rien laisser passer et de se battre pour le bien de tous, et qui décide même à un moment donné de dire « moi je vais me présenter comme maire aux prochaines élections ». C'est un engagement, mais hyper fort, quoi.
Ouais, complètement. Après, je pense que nous qui avons grandi en banlieue, on connaît tous des Abby. Abby, c'est pas des personnages rares dans ce genre d'environnement. On a plein de femmes, plein de filles qui se relèvent les manches et qui n'ont pas peur d'affronter tout ce qu'elles rencontrent. Mais après, effectivement, elle fait preuve d'autant plus de courage qu'elle décide de s'engager en politique et au détriment de sa propre personne. On voit qu'elle a pas peur de sacrifier certaines choses parce qu'elle a une mission à mener et qu'elle sait qu'elle peut arriver à ses fins.
Nabil, comment on vit alors un tournage comme celui-ci, certes, mais la deuxième lecture après le montage, quand on le voit la première fois, tout monté avec les effets, avec les figurants, les comédiens, quand on est devant et quand on est d'un seul coup derrière, c'est pas du tout le même sentiment qu'on peut ressentir. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi, quand tu l'as vu la première fois totalement monté ?
Beaucoup d'émotions, réellement beaucoup d'émotions. C'est un film qui prend aux tripes. Et une fois qu'on le voit monter, en fait, on est surpris aussi. Je veux dire surpris parce que des fois, on s'attend pas forcément à ça. Quand on est sur le tournage et qu'on voit certaines scènes, quand on les voit monter après, c'est assez impressionnant et c'est toujours un plaisir de le voir monter. Et des fois, carrément, on a l'impression de voir un nouveau film. C'est assez impressionnant.
Le cast, il est dingue. Que ça soit Steve, que ça soit Alexis, enfin, ils sont tous assez incroyables. Et ce rôle de mère, enfin... On en connaît tous des comme ça, des têtes à claque, et franchement, mais il a été choisi, mais parfaitement, le pauvre.
Là, c'est vrai qu'au niveau casting, on s'est vraiment pris la tête à choisir les bons comédiens, entre tous les comédiens qu'on tournait dans Les Misérables, qu'on a repris et qu'on a mis dans d'autres rôles, et notamment le rôle de Pierre, qui est incarné par Alex Emanenti, qui est juste bluffant. Et c'est un plaisir de bosser avec des comédiens, professionnels ou pas, parce que moi, l'idée, j'aime beaucoup travailler et avec des professionnels et avec des non-professionnels, parce que ça ramène tout le temps un côté très authentique, très sincère. Donc voilà, ça a été un pur plaisir de bosser avec tous ces comédiens.
Oui, parce qu'on sent une histoire aussi humaine d'amitié. Il y a des comédiens qu'on a vus déjà dans Les Misérables et qu'on revoit effectivement dans ce film. Donc on sent vraiment, en tout cas, un entourage proche de toi.
Oui, comme je dis, bien sûr, moi, c'était important d'impliquer les habitants du quartier, là, sur toute la figuration. Bah, 80, voire 90% des figurants sur le site de Clichy Montfermeil, c'est des gens que je connais, ce sont des proches. Et pour moi, c'était important de les impliquer parce que quelque part, c'est aussi leur histoire. Et en même temps, ça leur permet aussi de découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas forcément, dans lequel ils n'ont pas forcément accès. Donc voilà, il y a toute cette démarche qui fait que je m'entoure des gens que je connais et de mes proches.
On écoute la bande-annonce, Bâtiment 5, ça sort mercredi au cinéma. Et on revient juste après avec vous, on écoute.
Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
Bah non, justement.
Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là.
À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier, c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes.
On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droit des femmes? On parle de quoi exactement?
On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes.
Alors, on va parler de vos moments peut-être préférés ou des scènes qui vous ont marqué peut-être le plus. Nabil, est-ce qu'il était très lourd ce cercueil et combien de fois t'as monté les escaliers?
Ouais, il était... il était très lourd, c'était un vrai cercueil.
Rentrons dans le vif du sujet.
Non, mais c'était réellement un vrai cercueil. Donc, on a dû refaire la scène peut-être 5 ou 6 fois, je crois, un truc comme ça, sur 4 étages à chaque fois. Donc, fallait descendre. Et quand l'ascenseur ne marche pas pour descendre, il marche pas pour remonter non plus. Donc, il fallait descendre et remonter le cercueil sur 5 prises, je crois, 5 ou 6 prises à peu près. Donc, la sueur que vous allez voir dans le film, elle est véridique, tout est réel. Et la fatigue que vous allez pouvoir lire sur mon visage, elle est vraie aussi.
Et du coup, tu dors bien quand tu rentres après à la maison. Anta, quelle est la scène, toi, qui t'a le plus marqué? Toi, il y a beaucoup de scènes très très fortes, hein, des scènes de famille, il y a des scènes vraiment hyper fortes.
Hein. Ouais, j'en ai vraiment énormément, et ça change à chaque fois qu'on me pose la question. Aujourd'hui, en tout cas, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Il y a la scène au restaurant avec Roger. On a la confrontation entre Abby et le diable, entre guillemets. Où là, bah, c'était la première fois que je jouais réellement, ou en tout cas que je donnais la réplique à un comédien professionnel, parce que sur Le Jeune Imam, on était tous sur notre première expérience, et donc forcément, il y a un peu de pression. Et la deuxième scène assez forte, c'est la scène pendant laquelle Abby déclare devant le maire qu'elle se présente aux élections. Et là, forcément, j'étais galvanisée par la foule qui était réelle et qui était vraiment à fond. Les figurants, ils étaient vraiment exceptionnels. Et donc là, je me suis sentie politicienne à ce moment-là.
T'as pris un plaisir fou d'ailleurs à mettre le bazar dans ses feuilles, hein, dans ses dossiers, à un moment donné, hein, aussi.
Ah, ça, c'était jouissif. Ah, c'était jouissif. On l'a recommencé pas mal de fois. J'ai fait quelques loupés exprès juste pour la refaire.
Ça m'étonne pas. Latch pour toi, derrière la caméra, quelle a été... parce que je sais, il y a aussi beaucoup de la famille, hein, qui était devant la caméra pour toi.
En termes de scène, je dirais la scène de l'évacuation. Il reste quand même une scène très forte, très importante dans le film, où on a à peu près 15 minutes, une séquence de 15 minutes où les habitants sont délogés de leur appartement. Donc ça a été un vrai challenge, je veux dire qu'on allait tourner avec plus de 200 figurants dans une tour de 10 étages qu'on s'est complètement accaparé, parce qu'on a eu la tour à notre disposition, sachant qu'elle était en cours de destruction. Donc pendant 3 semaines, on a eu 7 tours vides à notre disposition. Donc ça a été un vrai pari, et d'autant plus qu'on tourne dans des cages d'escalier qui sont des endroits très étroits, avec tout ce monde, tout ce matériel. Donc ça a été un vrai challenge. Donc assez fier de cette séquence d'évacuation.
Vous allez voir, en tout cas, le film est vraiment très réussi. Comment on se sent à 2 jours de la sortie? comme ça. Toi qui as été multi-récompensé pour le coup sur Les Misérables, est-ce que ça met une pression supplémentaire de pas vouloir décevoir les gens qui t'ont fait confiance sur ton premier grand long métrage?
Bah, c'est sûr qu'il y a une grosse pression après le succès des Misérables. On se rend compte qu'il faut assurer quand on arrive avec un premier film, 4 Césars, on va aux Oscars, enfin on prend une cinquantaine de prix, bah forcément on se dit que le prochain il va falloir qu'on assure et qu'on soit à la hauteur. Donc beaucoup de pression mais beaucoup de travail aussi. On est assez fiers du film Bâtiment 5. On espère que le public sera là au rendez-vous le 6 décembre en salle.
Pour toi, Anta, comment tu te sens?
Pas mal d'excitation. Hâte de voir les retours du public, hâte de voir comment est-ce que le film sera reçu. Et ouais, forcément un petit peu de pression, mais bon, on est confiant.
Nabil?
Moi, j'ai aucun doute. De toute façon, c'est un film que les gens ne peuvent que aimer. Donc, j'ai vraiment aucun doute sur ce film.
Alors, on est scotché du début à la fin. Je vous le dis très clairement, vous verrez, à aucun moment, vous lâchez le spectateur. Et c'est ça qui est hyper agréable quand on regarde un film. C'est de pas être lâché à aucun moment. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, hyper plaisant. Pour la suite, on va évoquer vos projets. Mais juste avant, Ladj, est-ce que tu peux imaginer à un moment donné qu'on puisse retrouver Abby et Blaze pour une suite? Si c'est au rendez-vous, est-ce que tu aurais envie, en tout cas, de refaire vivre ces personnages à l'avenir, peut-être plus tard, pour voir ce qu'ils sont devenus, peut-être 10 ans plus tard?
Oui, bah, je pense que oui. Après, je pense que je suis quelqu'un d'assez fidèle et j'aime bien travailler avec mes équipes. Et nous, c'est ce qu'on a pu faire avec le collectif Courtrage Mieux. Aujourd'hui, ça va faire plus de 30 ans qu'on travaille tous ensemble, les mêmes potes d'enfance. Donc voilà, dans la continuité, j'aimerais beaucoup continuer à bosser, que ce soit avec Anta, que ce soit avec Aristote, que ce soit avec Nabil ou tous les comédiens avec qui j'ai bossé, que ce soit dans Les Misérables ou Bâtiment 5. De toute façon, comme je dis, c'est une trilogie, donc forcément, il y aura plein de similitudes entre les trois films.
Mais parce qu'il faut le dire, on peut le spécifier, on va rien dévoiler évidemment sur la fin, mais la fin est ouverte. Donc on peut très bien imaginer, en tout cas, revoir ces personnages un jour. Anta, les projets pour 2024? Qu'est-ce qui t'attend dans les mois, les semaines à venir, cinéma, théâtre, télé?
Eh bien, pour l'instant, on est à l'écoute. On est à l'écoute du marché, on va dire. On profite déjà de la promo de Bâtiment 5 et puis on attend que le film sorte et voir si différents projets peuvent nous plaire ou pas.
Je suis sûr qu'il y en a qui vont arriver, moi. Nabil?
Pareil. Donc moi, je prends la vie comme elle vient. Donc s'il y a des choses qui arrivent, on les prendra avec plaisir. Et si elles ne viennent pas, c'est que c'était écrit comme ça.
Belle philosophie pour terminer cette spéciale Bâtiment 5, le film à ne pas rater. Ça sera donc mercredi au cinéma. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour en parler.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
On a la plus grosse concentration d'étrangers tôt le département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? Le fou.
Allez, à la roule Matouma. À la roule Matouma.
C'est une occasion qu'on a. Ça fait des années que la mairie veut expulser ces gens.
Je ne dois pas virer des gens le jour de Noël.
Est-ce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police?
Allez, on marque une pause dans un instant. Éléonore Bernheid, Mehdi Sadoun, Marie Desnarnaud, ils sont tous là pour nos coups de cœur télé de la semaine. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Les jours semblent nuits, sans éclaircie à espérer. Qui peut croire que l'été nous reviendra? grand. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi. J'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour. Et la joie de vivre en ce temps-là. J'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour. Et la mélancolie au soleil d'Émilie devenez joie de vivre.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à l'art du crime et Florence Chassagne is back. Et oui, elle revient avec Nicolas Gob et notre Antoine Verlet qu'on aime tant. L'art du crime, nouveaux épisodes inédits. Vous savez qu'on bascule dans des enquêtes dans le domaine de l'art. Et Léonore Bernheim, l'interprète de Florence, est avec nous. Bonjour Léonore.
Bonjour.
Toujours un grand plaisir à te recevoir. On est là quasiment depuis la première saison. Enfin, on est là depuis la première saison à tes côtés. Depuis 7 ans, c'est un succès qui ne se dément pas. Alors que malgré tout, on a le droit qu'à 2 épisodes tous les ans. C'est quoi cette histoire?
Oui, c'est qui se dément pas et qui grandit d'année en année. Ça, c'est assez exceptionnel. D'abord, les gens se sont vraiment fidélisés au duo et à la comédie romantique entre les deux personnages principaux. Et puis aussi, c'est aussi de mieux en mieux, je pense, vraiment. Bah, comme toutes les séries, il a fallu, il y a eu des petits ajustements au fur et à mesure des saisons. Et c'est vraiment devenu, je trouve, c'était déjà au départ un bon programme, hein, mais c'est vraiment devenu une fiction de qualité et à la fois assez populaire.
On y retrouve quand même les histoires personnelles justement des deux protagonistes, avec évidemment cette tension amoureuse qu'on suit depuis le départ. Ce baiser qu'on a tant attendu, on peut le dire, c'est vraiment c'est chien et chat, hein, Antoine et Florence.
Oui, c'est chien et chat, et comme souvent, la vie a bien plus d'imagination que nous, et les scénaristes ont encore bien plus d'imagination que la vie.
Que la vie.
Donc, du coup, c'est un ressort de comédie qui est assez extensible. Ils sont très très ingénieux pour que ça ne tourne pas en rond, je trouve. Et là, dans cette saison, ils ont encore trouvé des chemins de traverse qui sont assez savoureux, je trouve.
Fil rouge, justement, de cette saison. Il va y avoir des guests, j'imagine. Et quels sont les endroits qu'on va découvrir, en tout cas sur cette nouvelle saison? Parce que à chaque fois, on découvre des endroits, évidemment, qui sont des temples de l'art. Hein, et vous tournez dans des endroits merveilleux, franchement.
Ouais, c'est les super guests de la série, d'ailleurs. C'est les endroits. On tourne dans la Galerie des Glaces, au Château de Versailles, dans les jardins, dans les parcs. Et on a tourné au Louvre. Voilà. Bon, ça, le Louvre, on est super habitué.
Vous commencez à connaître.
Mais, ouais, voilà. On a fait Versailles et le Louvre cette année. Et c'est Vigée Lebrun, qui était la portraitiste de Marie-Antoinette. Ça, c'est le premier épisode, le peintre qui a abordé. Et Botticelli pour le deuxième.
Les guests qui viennent vous accompagner, je sais que c'est toujours un plaisir pour vous de recevoir, alors des fois c'est des amis que vous connaissez, des fois c'est des comédiens que vous connaissez pas du tout, mais c'est toujours un plaisir de recevoir justement des gens qui viennent amener tout le temps de la fraîcheur.
Ah ouais, ouais, ouais. Alors cette année on a Catherine Jacob.
Ah ouais. La classe.
Et qui a un rôle qui lui va comme un gant. On était vraiment très contents qu'elle ait bien voulu venir, qu'elle ait eu envie de venir, parce que elle va être tout à fait ambiguë et intrigante, donc c'est très bien. Et on a Lou Denis.
Voilà. Denis et Lyon.
Lou Denis et Lyon. Et on a Armel Deutsch.
C'est chouette, ça, ah, déjà.
Ouais, ouais, c'est vraiment des super comédiens avec qui on a pris beaucoup, beaucoup plaisir à faire cette saison.
Vous avez conscience, tous les deux, avec Nicolas, d'avoir accès à des endroits, voire même des endroits des fois cachés au public? tous ces endroits magnifiques que vous parcourez depuis le début de la série.
Bah, en fait, ce qui est attractif pour les spectateurs l'est pour nous aussi. C'est-à-dire que, évidemment, ça fait partie de saveur de cette série, c'est que chaque année, on se laisse emmener par les scénaristes et par le réalisateur qui nous emmène dans des lieux à chaque fois incroyable, avec un privilège de, enfin, la Galerie des Glaces, là. Le Louvre, maintenant, on est un petit peu habitué, n'est-ce pas? Mais là, de visiter le château de Versailles, enfin, d'être seul dans le château de Versailles et d'être seul dans la Galerie des Glaces. Moi, j'étais seule, c'est-à-dire que moi seule, avec la résonance de mes pas et rien d'autre. C'est assez fou, hein. À chaque fois, c'est un grand plaisir et un grand étonnement, quoi.
Il y a des endroits où tu rêverais de tourner où tu as peut-être chuchoté à l'oreille des scénaristes où tu rêverais de tourner, justement?
Bah, moi, je trouverais ça bien que déjà on bouge un peu. Il en a été question pour Arles avec Van Gogh, mais finalement ça s'est pas fait. Le rêve, ce serait de tourner à Florence. Voilà.
Ouais, de même sortir des frontières de la France.
Voilà, de faire une coproduction européenne et tourner. Moi, j'aimerais vraiment qu'on à Florence ou on avait envie d'aller à Anvers aussi ou à Bruges. Voilà. Mais il faut vraiment que ça corresponde aussi. Botticelli, on aurait pu le faire à Florence. Voilà.
Merci à toi. On retrouve cette nouvelle saison inédite de L'Art du Crime. Ça débarque sur France 2 pour notre plus grand plaisir. Direction le château de Versailles et la Galerie des Glaces pour ce premier épisode. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Bon, Renan Bello, 48 ans.
Il était voyant? Bello pensait sûrement qu'il y avait un diamant que personne n'avait trouvé.
On est un groupe de passionnés de Marie-Antoinette.
Où est-ce que vous aviez besoin de tous ces tableaux-là?
C'est pour convoquer les esprits des morts.
Vous êtes trop mignons.
Alors, Adèle, il y a une énorme méprise.
Il n'y a plus rien entre Florence et moi.
Mais vous allez trouver ce meurtrier. J'ai toute confiance en vous.
Bon, en fait, il nous faudrait un flic qui s'y connaisse un peu en spiritisme.
Flic médium, ça n'existe pas.
À Versailles, les grands esprits se rencontrent. Ou pas.
J'entends des voix.
L'Art du Crime, lundi prochain à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Répercussions, qui va être diffusé mercredi sur France 2, coproduit par Yann Vazak, qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, par Camille Monin également. Bonjour Camille.
Bonjour.
Nos deux coproducteurs qui sont avec nous, réalisés de main de maître par Virginie Wagon, qui est avec nous. Bonjour Virginie.
Salut.
On a aussi la chance d'avoir Marie Desnarnaud pour un petit rendez-vous quasiment annuel qu'on a la chance d'avoir avec Marie. Bonjour Marie, merci d'être avec nous.
Bonjour Alain, merci à vous de nous recevoir.
Vous voyez, même après 12 millions de téléspectateurs avec HPI, ben, elle vient toujours nous voir, Marie, et on est bien contents. Voilà. Répercussions, c'est l'histoire d'une bande de potes où un rouage va mettre un coup de grippe dans cette belle histoire d'amitié et à la fois sous fond d'alcool et d'accident créé à cause de l'alcool. Moi, j'ai trouvé ça très bien fait. Et si on devait résumer un peu ce film, c'est vraiment quand on tient quelqu'un, on le retient. Parce que ça crée des répercussions sur plein de choses dans une vie et ce film est nécessaire. Qui a eu l'idée déjà, je trouve, en tout cas, de cette belle histoire, Yann?
Ce projet m'est arrivé par notre directeur littéraire, Mathieu Bernard, qui avait eu écho de cette écriture de Loïc Bellan au fonds d'innovation du CNC, du ministère de la Culture, et ça faisait partie d'un projet un petit peu hors norme qui était sorti, et donc à la base c'était un projet de série, et donc quand il m'a fait lire les 3-4 premières pages, j'ai tout de suite vu que c'était un sujet hyper concernant. Évidemment, je me suis senti impliqué, je me suis senti comme une personne qui a déjà vécu ça, à tort très certainement, et donc évidemment j'ai eu envie de développer ce projet que j'ai très vite présenté à France Télévisions et avec qui on a fait un développement assez long, assez compliqué, parce qu'il fallait transformer ce projet de série en film unitaire et ensuite arriver à trouver un scénario qui ne soit pas un film institutionnel sur la sécurité routière, mais une véritable fiction. Et après j'ai eu la chance de pouvoir confier ce scénario à Virginie Wagon.
Produit donc avec Camille, qui est arrivé à quel moment dans le projet?
Je peux juste ajouter une petite chose sur le scénario. À la base, c'est une idée donc de Loïc Bellan, parce qu'on les a pas cités, et qui assez vite a coécrit avec Alexis Le Sec, et qui ont écrit ensemble, je crois, pendant un an et demi environ, jusqu'au moment où France Télévisions nous a dit que il fallait faire mieux évoluer les choses si on voulait en faire un film. Et donc on a mis sur le projet d'écriture Raphaël Desplechin, qui a repris le travail d'écriture du scénario avant donc de le mettre entre les mains de la réalisatrice Virginie Wagon.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier, Virginie, dans ce projet?
Je trouvais que c'était hyper tabou comme sujet, et comme j'adore les sujets tabous, j'aime enfoncer ça.
Et à la fois c'est nécessaire. T'avais vraiment la conviction quand même de faire un film nécessaire, de faire éveiller les consciences.
Oui, parce que j'aimais beaucoup le fait que les personnages sont très beaux au début dans cette histoire d'amitié depuis toujours, et puis que ça s'effrite et que chacun baisse le masque. Donc je me suis dit, c'est quand même, on est dans une comédie humaine qui est souvent le réel. Qu'est-ce qui se passe? Je peux le traiter de plusieurs façons, c'est-à-dire un peu polar, un peu suspense, un peu comédie, en poussant le bouchon sur le personnage de Charlie Dupont, qui est à la fois un clown triste, mais un clown aussi. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses. Je veux amener de la sensualité, je veux amener du rire, je veux amener du charnel, je veux amener un mort qui est vivant et qui est fantôme. Je me suis dit, il y a plein de choses, il y a plein d'aspects qui vont m'amuser, moi, dans ma propre... mon propre petit esprit tordu. Et du coup, l'âpreté ou le côté moralisateur, je les évacue totalement par la mise en scène, en fait.
C'est vrai qu'il n'y a pas de côté moralisateur, forcément, dans ce film. Il y a juste des choses de la vie. Et on pourrait s'identifier à n'importe quel de ces comédiens formidables qui incarnent tous ses amis, David Camenot, Sophie Defurst, Lanny Gautry, Charlie Dupont, Marie, tu incarnes Salomé. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le projet aussi?
Bon, déjà, les partitions pour tous les acteurs, garçons-filles, étaient quand même très fortes, ce qui est quand même pas si fréquent. Et puis, j'ai adoré la rencontre avec Virginie Wagon, qui est une punk. Ça, c'est très rare aussi, qui est vraiment quelqu'un qui cherche à tirer l'élastique, comme elle dit, à pousser les choses plus loin, à voir derrière, à chercher ce qui est souterrain, à chercher à créer d'autres émotions que celles qui sont évidentes, à pas faire pleurer la veuve, à la faire rire. Voilà, donc ça a été un travail absolument passionnant, honnêtement. On a été une super bande. Bon, tout le monde a joué le jeu aussi de sortir un petit peu de ses gonds et de ce qu'on pouvait imaginer de ces personnages pour aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et moi, j'ai adoré faire ça. Après, c'est un projet qui était très exigeant, qui était sur le fil. Mais moi, j'ai senti, dès que j'ai rencontré Virginie, que justement, ce serait pas moraliste, ce serait pas le procès de l'alcool, mais plus un questionnement sur la responsabilité et sur aussi ce que l'alcool révèle finalement. Et je trouve que, sincèrement, je suis hyper fière d'avoir participé à ce film, que je trouve rare, parce que déjà il est très très beau, il est surprenant tout le temps, il est envoûtant par moments parce qu'il y a beaucoup de symbolisme et il y a beaucoup de fiction et beaucoup de réalité, et ça c'est très fort parce que du coup ça devient quelque chose de très universel, et comme vous dites, je pense que n'importe qui va s'identifier à beaucoup de ces personnages.
Sans basculer dans ce qu'on pourrait être à la limite du documentaire, mais pas du tout, justement. On reste vraiment dans cette fiction. Juste avant d'écouter la bande-annonce, on y suit le personnage de Charlie Dupont, qui est ton mari dans l'histoire, et qui va partir à une fête d'anniversaire d'un de ses amis sans toi, après une dispute. Et donc, au retour au petit matin, va attraper un accident de voiture. Alors, il va pas rester sur le carreau tout de suite, vous verrez après ce qui va se passer. En tout cas, il va se passer un drame qui va faire que ça va remettre en question toute cette histoire d'amitié, et surtout, comment ça se fait qu'il avait 2 grammes d'alcool, qui sont responsables? Aurait-on pu le retenir? Que s'est-il passé réellement? C'est aussi tout le questionnement de Salomé et auquel elle va devoir répondre dans le film. On en parle juste après. On écoute la bande-annonce. Répercussions, c'est mercredi à 21h10 sur France 2.
Inédit, mercredi soir.
C'était juste une connerie d'accident.
Non, on meurt pas comme ça.
Alors, on lui a trouvé 2 grammes d'alcool dans le sang.
Ça m'étonnerait. Il aurait pas conduit en ayant autant bu.
Les seuls à l'avoir vu avant son accident, ce sont eux, vos soi-disant amis.
Vous l'auriez pas laissé repartir s'il était vraiment bourré?
Bien sûr que non.
Il y a forcément une explication. Et moi, je veux comprendre.
Vous allez devoir porter plainte. Ça permettra d'ouvrir une enquête.
Mais elle est complètement folle.
C'est dégueulasse, tu vois, nous faire porter la responsabilité de la mort de Fred.
T'avais vu, toi, qu'il avait trop bu? Peut-être.
Un choc et tout vole en éclats. Répercussions. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
On y retourne, notre spécial Répercussion, un film incroyable, vous allez découvrir mercredi. Alors on le disait, Marie, c'est le rôle de Salomé peut-être le plus difficile à endosser. Virginie peut en témoigner.
Archi difficile, c'était la perle rare à trouver. Quand j'ai accepté le scénario, j'ai tout de suite dit à Yann et Camille, gros problème sur le personnage de Salomé. Là, il va falloir trouver quelqu'un qui va nous dépoter le truc. Et Marie, avec le charnel qu'elle a, l'engagement humain absolument magnifique, les scènes d'hôpital sont magnifiques avec Charlie, la scène aussi dans le lit avec le fantôme, enfin, et voilà, ce côté charnel nous permettait d'échapper à une nana chiante, moraliste et qu'on allait vite détester.
Oui, parce qu'elle va pas se déprimer, elle va chercher à comprendre, elle va essayer d'être en quête de vérité, quitte effectivement à aller au devant de ses amis. Et en fait, ce personnage, il est tout en force.
Oui, c'est-à-dire c'est un personnage très complexe, donc ça c'est quand même super excitant. Aussi, Virginie a vraiment souhaité tout le temps prendre le contre-pied de ce qu'on pouvait imaginer d'elle. Et en fait, elle est dans l'action, c'est-à-dire que sa manière de lutter contre ce deuil, ça va être d'essayer de comprendre, d'essayer de survivre. Elle a des questionnements, des problématiques, et elle va en finir en cherchant les responsables à un moment donné, se détourner de ses amis ou être poussée à se détourner de ses amis. Et ce que je trouve très fort aussi dans le film, c'est comment déjà Virginie assume de montrer ce que c'est le vide, le deuil. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'absence en fait? C'est quoi le quotidien? Et il y a des moments magnifiques dans le film qui sont presque comme des temps suspendus, qui sont des images. Et tout d'un coup, il n'y a plus de mots. Alors, il y a de la musique, il y a beaucoup d'émotions. Mais on laisse aussi les gens avec cette absence pleine. Parce que le mort est finalement tout le temps là, et c'est aussi parce qu'il est tout le temps là que elle reste, je pense, sympathique et émouvante, parce que elle n'est pas coupée de son amour. Et donc, je pense qu'on la suit aussi grâce à toutes les inventions de Virginie autour de cette absence présence, quoi.
Virginie, vous avez regardé Ghost combien de fois dans votre vie?
Non, pas tellement, mais au départ quand...
Un petit clin d'œil quand même.
Exactement. Au départ, quand j'ai lu le scénario, il y avait 3 séquences de fantômes et j'ai dit à Yann, je vais les virer, là, ça me va pas, quoi. Donc j'en ai parlé avec Raphaël Desplechin, je lui ai dit non, moi ça me parle pas. Elle m'a dit, écoute, on y tient, la chaîne y tient, etc. et tout. Crée, c'est ton boulot. Démerde-toi, crée. Et donc, voilà, c'est passé par le costume de Charlie, par ce qu'est Charlie énormément. C'est quelqu'un qui adore siffler. Et donc, du coup, quand je l'ai entendu siffler par hasard, je me suis dit, mais putain, le fantôme siffle. Et ce sifflement, je vais le reprendre plein de fois dans le film. Dès l'accident, sur la musique de Handel qui est sifflée au tribunal. Et puis, dans ce qu'il va apprendre à son fils en tant que fantôme. Donc, je me suis dit... Voilà, déjà j'ai une clé pour ce fantôme et je l'ai voulu rogue, je l'ai voulu en peignoir, je l'ai voulu avec un nœud papillon improbable sur un rose, sur un t-shirt, etc. Donc je trouvais je voulais qu'il soit une idole rogue quoi. Et à la fin, quand il bondit sur les tombes, on comprend bien.
Au fur et à mesure qu'on voit le film se faire, Camille et Yann.
En fait, c'est sûr, pour réappuyer dessus, c'est que au moment du scénario, puisqu'avec Yann, surtout Yann, mais on a quand même suivi le scénario, et ce qui était très très dur, c'est que dans cette bande de potes, il fallait qu'il y ait une empathie, et en particulier pour Salomé, qui pouvait avoir le rôle de la méchante, et c'était très dur à l'écriture. Clairement, ça a posé beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que, finalement, ils sont quand même arrivés avec le travail de Raphaël, et quelque chose d'abouti. Mais c'est vrai que Virginie, elle a su prendre à bras le corps. Voilà, de rendre Salomé, je sais pas si c'est gentil, c'est pas le vrai mot, mais en tout cas humaine, et tous, en fait. Il n'y a pas de méchant et de gentil, finalement. C'est juste des humains qui sont...
Qu'on puisse la comprendre à chaque fois, tout le temps, ouais. Systématiquement.
Et ça, c'était important. Je pense qu'elle a vraiment joué sur ça, sur l'humain, avec chacun, en effet, leur côté rock ou pas, mais c'était l'humain. Et je pense que le résultat final, on est tous d'accord pour dire que si on se reconnaît, c'est parce qu'ils ont ça, ils ont ces aspérités qu'il y a chez nous tous, en fait. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est très réussi, en tout cas.
Au fur et à mesure, vous avez vu les rushs, là, tous les deux. Que vous voyez le film se faire au fur et à mesure, que vous voyez les images arriver, vous êtes dit quoi, Yann?
On a tout de suite été extrêmement rassurés dès les rushs de la première journée. Et pourtant, la première journée était une journée très difficile parce qu'on tournait dans un hôpital. On était en pleine période de Covid, donc c'était un petit peu le bazar. L'équipe était un petit peu compliquée. Et c'est vrai que de tourner justement une scène d'hôpital dès la première journée, c'était vraiment très difficile. Mais dès qu'on a vu les rushs, on était tout de suite rassurés. Et j'ai eu en fait un appel de France Télévisions qui a aussi tout de suite adoré, donc on était tout de suite en confiance. Et après, le reste du tournage s'est très bien passé, tout le monde a joué le jeu et on a eu une équipe absolument formidable, artistique et technique.
Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été avec nous, ne ratez pas Répercussions. C'est mercredi à 21h10 sur France 2, juste après Ainsi Grand Soleil. À très vite et merci.
Salut.
Merci, à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup.
Oui, merci, au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Enquête Parallèle qui sera diffusé samedi soir à 21h10 sur France 3. Au casting, il y a du beau monde. Hein. Florence Pernel, Jean-Baptiste Chelmerdine à l'affiche également de Mère Indigne en ce moment sur France.tv depuis vendredi. Il y a également Macha Meryl, G. Cyril Massengo ou encore Marie-Christine Hagan, Christophe Favre et Mehdi Sadoun qui est notre invité. Bonjour Mehdi.
Bonjour, mais que fait-il dans cette série? Mais que fait-il dans ce film?
Eh ben écoute, tu vas y incarner Pierre Langlois. Alors toi, t'es un peu le, on va dire l'officiel. Voilà, l'officiel qui va venir enquêter sur la mort d'un jeune homme qui est tombé d'un pont et qu'une jeune fille de 16 ans a découvert en faisant son jogging. Sauf que cette jeune fille est la fille d'une célèbre journaliste de la région. Et pour cette jeune fille, ouais, ça va être absolument insupportable de ne pas savoir évidemment qui est ce jeune homme si personne répond à l'appel. Témoin, il va convaincre sa mère, Fred, incarnée par Florence Pernelle, eh bien, d'enquêter en parallèle de la police. Et évidemment, entre toi et le personnage de Fred, ça va se friter de temps en temps, mais toujours quand même avec bienveillance, j'ai l'impression.
Ouais, hein, ouais. Dans la bienveillance, dans l'amour d'autrui, dans tout ce qu'on veut. Mais je crois que t'as tout dit là déjà. Hein. On peut pas aller un peu plus loin hein, sur l'enquête, là, sinon on va commencer à lâcher des infos.
Là, on peut plus trop en dire plus, mais par contre, toi, tu vas nous en dire plus sur ton tournage, sur tes souvenirs. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce tournage d'enquête parallèle, sur tes souvenirs de tournage justement avec Florence et toute l'équipe.
Écoute, à l'image de Stéphanie Pionka, qui est d'une gentillesse, d'un humanisme incroyable, notre réalisatrice, qui vient du documentaire et qui a fait aussi plein de choses pour la télévision, c'est une joie parce que elle nous rappelle à chaque jour, à chaque matin, première heure de tournage, qu'on a de la chance de faire ce métier. Et ça, c'est important de nous le rappeler, nous acteurs, techniciens, monde du spectacle, qui essayons de donner de la joie, qu'on a de la chance. C'est le meilleur boost qu'on puisse avoir pour que la journée démarre bien. On commence déjà avec une énergie d'amour et de solidarité avant de faire action. Et c'est très important. Voilà, c'est important que l'équipe ne fasse qu'un. Acteurs, techniciens, etc., qu'on soit tous ensemble. Dès l'instant où ça commence, eh ben l'envie est là. Donc quand l'envie est là, on a envie de jouer. Et quand on a envie de jouer avec un copain, eh ben on joue bien. Parce qu'on joue avec plaisir, on joue avec amour. À l'image de Florence Pernelle, qui en plus une grande actrice, qui à l'époque faisait Le juge est une femme.
Tout à fait la première, alors, moi, Florence Larrieux.
Exactement. Et moi, je n'osais pas dire quand j'étais petit, je te regardais. Je peux pas lui dire ça. Tu vois ce que je dis? Non, je plaisante. On a pas un si grand écart d'âge, mais c'est vrai que quand t'as 15 ans et que l'autre en a 25, déjà, t'es petit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, ce tournage s'est passé dans la région de Lyon. Ouais. À Roanne, on était, donc avec Florence Pernelle, Jean-Baptiste Chelmerdine, du beau monde, Tommy Bugsy, comme tu as annoncé tout à l'heure.
Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est même des petits rôles, mais il y a un casting, mais de dingue, même sur des fois, voilà, quelques apparitions, quelques petits rôles, des gens qui sont venus faire peut-être une journée, deux jours, trois jours maximum.
Ouais, c'est ça.
Mais
ça,
même là, Ariane Massenet, Anaïs Parello, enfin, c'est hallucinant.
Bien sûr, tu vois, Anaïs Parello, incroyable, elle joue très très bien, le casting, enfin, joue vraiment très très bien, des acteurs qu'on connaît pas, qui sont incroyables. Donc, à l'image de Stéphanie Pionka, la réalisatrice, qui a fait beaucoup de documentaires, et qui a cette patte à vouloir nous faire jouer quasiment qu'une seule fois. Ça veut dire qu'on ne va pas faire 36 prises.
Ouais.
Alors d'une, pour ne pas nous épuiser, comme elle dit, alors qu'on pourra en faire plusieurs quand même, mais pour garder notre instinct de jeu et notre instinct naturel de cette première prise qu'on ne pourra pas refaire une deuxième fois. Parce que dès l'instant où on l'a fait une deuxième fois, elle est réfléchie, elle n'est plus aussi spontanée, aussi naturelle. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Donc souvent, quand on termine cette prise, on dit on peut en refaire une là parce que... Ah non, moi j'ai ce qu'il me faut. Ah, moi, j'ai ce qu'il me faut, là.
C'était
là,
parfait comme ça.
Exactement ce que je veux. Et là, on se dit, mais elle a raison, parce que si on la refait, c'est un petit peu par ego. On se dit, tiens, j'ai envie de la faire un peu mieux articulée, ou à faire de meilleurs regards. Et en fait, ça, c'est un mauvais calcul, puisque c'est elle qui voit derrière son écran si c'est bien ou pas, si c'est naturel. Et donc, c'est ça sa puissance, c'est ça sa force. C'est de pouvoir avoir notre spontanéité dès la première prise. Et donc, voilà, c'est une histoire qui fonctionne bien, qui est très moderne. J'ai pas envie de dire que ça va dépoussiérer quoi que ce soit, mais en tout cas il y a un casting qui est très varié.
Et il y a beaucoup de comédie.
C'est une comédie. C'est-à-dire que c'est une vraie enquête. C'est-à-dire qu'au milieu de l'enquête, on n'arrive pas à déceler ce qui va se passer. Faut attendre. On va sur le mauvais chemin. On dit ça doit être eux, ça doit être ça. Non, faut vraiment. On est obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est agrémenté de comédie, de drôlerie, puisque Florence est très très drôle avec son naturel et puis arrive à sur chaque séquence, elle a ce petit brin d'humour à apporter ce décalage à chaque fois qu'elle a un interlocuteur devant elle. Et puis ça marche très bien. Ça marche très très bien. J'ai eu la chance de le voir et j'étais agréablement surpris. Mais vraiment, j'étais très content de ce que j'ai vu parce que quand tu te dis tu tournes en une prise, tu vois pas ce que les autres font. T'as 8 jours de tournage. Moi, j'avais 8 jours, tu vois. Donc 8 jours sur un mois, tu vois. Tu te dis bon, on va voir ce que ça va donner. Et là, la magie, quoi. La magie. La magie Stéphanie, la magie Florence Pernelle, la magie Jean-Baptiste avec aussi le champion de K1 qui avec lequel j'avais fait un sketch à l'époque dans Kaira Shopping, c'est comment il s'appelle,
Jérôme Le Banner, oui, bien sûr, le jardinier.
Tendresse derrière sa puissance monstrueuse, un jardinier, il joue le rôle du jardinier, mais faut voir un mec qui t'étale tout le monde sur les rings avec ses fleurs, comme ça tu le vois empoter des fleurs et d'une tendresse incroyable.
Et pour le coup, c'est une seule enquête ou est-ce que on peut espérer peut-être retrouver ce duo de journalistes flics entre Pierre et Fred? Est-ce qu'on peut
C'est prévu. Ça dépendra bien sûr de, tu sais comment ça fonctionne. Hein.
Ben oui.
Est-ce que ça a plu, pas plu? Est-ce qu'il y a eu des audiences? Mais l'envie est là en tout cas. On en a parlé et voilà.
Si et vous avez envie de vous retrouver.
Il y a déjà les auteurs sont déjà
à pied d'œuvre.
À pied d'œuvre, exactement.
Bon, eh ben dis donc, il va falloir trouver le temps, parce qu'en plus, t'es en train de tourner, t'as repris la série Le Crime lui va si bien, après Claudia Talbot, et t'es en train de tourner le premier épisode de la nouvelle mouture, en tout cas, du côté de la Charente, en ce moment même.
Ouais.
Alors, est-ce que tu t'es bien adapté à cette équipe?
Eh ben écoute, oui, tu sais, moi je suis... Quand tu commences un nouveau film, il n'y a pas d'expérience. Tu peux avoir l'expérience de te dire, bon, ouais, je sais comment ça se passe, un plan de travail, je sais que l'histoire est tournée dans le désordre. Tu peux connaître ça, mais à chaque fois que tu commences un film, c'est un nouvel élève, c'est une nouvelle aventure. Tu peux commencer avec un nouveau comédien et t'en sauras pas plus que lui. Donc, t'as peur. Moi, je suis arrivé, l'équipe se connaissait depuis déjà 6 ans, et c'est comme si t'étais un nouvel élève qui arrivait dans la classe en plein mois de mars. Et voilà, on vous présente le nouvel élève, il va falloir... Et j'ai ressenti cette peur la veille du premier jour de tournage, mais comme l'équipe est adorable, est vraiment pleine d'amour. Franchement, quand je dis pleine d'amour, ça veut dire que on n'est pas dans l'ego du regardez-moi, est-ce qu'il va remonter, est-ce qu'il va être aussi percutant que Claudia, parce que moi Claudia Tagbeau, c'est une femme que je respecte, qui est une grande actrice humoriste, et je me dis mais comment moi je peux arriver derrière alors qu'ils ont collaboré avec elle depuis si longtemps. Ça se trouve ça va faire pchit. On se pose plein de questions quand on arrive au 7e épisode comme ça.
Mais oui.
Ça se trouve ça va, je vais tout faire foirer, et en fait ils m'ont mis tout de suite en confiance et je me suis senti très libre. Et mes ailes se sont déployées le lendemain matin. On a l'impression d'être une petite famille qui tourne comme ça, un petit court-métrage d'école, alors qu'en fait, ça va passer à la télévision. On se rend compte ce que c'est que la télévision. Voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup plus qu'au cinéma quotidiennement, puisqu'on tourne à peu près, ça parlera peut-être pas aux gens, mais en tout cas 6 minutes par jour de film.
Ah, vous êtes sur au moins 2 fois plus. C'est au moins 2 fois plus vite que le cinéma.
Deux fois plus, voilà, c'est ça. Donc on commence le matin à 7h30, on finit à 18h, sans s'arrêter, sans pause, d'une séquence à l'autre, comme ça, tac, 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 tac. Et puis il faut être bon tout de suite, quoi, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et voilà, donc en fait, ce qui est le plus important pour un acteur, c'est de se sentir, ne pas réfléchir et jouer. Voilà, pas sentir de contrainte quand tu fais ton texte, et voilà, se sentir léger. Et ils ont su me mettre léger au milieu de toute cette équipe qui se connaissait. C'est très bien écrit. Hélène Cesaré est d'un amour absolu. C'est-à-dire qu'elle a collaboré comme avec Claudia Tagbeau pendant 6 ans. Elle m'a adopté comme ça. Elle m'a dit, sens-toi bien. Tu vas voir. On est là juste pour jouer. Il y a pas de, on n'est pas là pour, on est là pour se faire plaisir et s'amuser. Et j'ai compris que c'était que la camaraderie et surtout l'empathie, savoir intégrer des gens. Voilà.
Eh ben on va retrouver ça très vite, et puis j'imagine évidemment qu'il y en a déjà certainement un deuxième sur les rangs, parce que Le Crime lui va si bien, généralement on a 2 épisodes par an minimum, donc.
Ouais, les producteurs ont déjà vu les images, parce que tu sais que quand on tourne une journée, ils regardent les images tout de suite pour voir ce que ça donne, et ils font des petits retours en disant on est très content de cette séquence, continuez comme ça, on est très content de cette séquence. Et je leur ai dit que je les accompagnerai moi en tant que à mon niveau pour communiquer sur ce film-là, sur Internet, partout, qu'on fasse des choses pour que Hélène Cesaré, Julien Ratel, Laurent Manzoni, qui fait le rôle du commissaire, Laurent Lochet, qui faisait partie des Deschiens, qui faisait déjà partie de cette série, puissent être encore plus en lumière. Il faut que cette famille du crime lui va si bien soit l'équipe du bon Dieu de la télé. Voilà, il faut amener les jeunes vers cette série pour France 2, que cette nouvelle génération puisse voir un petit peu que c'est très sympa ce qui se passe à la télévision aussi.
Eh ben, on essaiera de s'organiser une avant-première du côté de la Charente, en tout cas avec toi, très très vite. Samedi, c'est Enquête parallèle. C'est à 21h10. Le rendez-vous est pris, c'est sur France 3, en tout cas, qu'on te retrouve. On va se quitter avec un extrait. Bon, on te dit à très bientôt, Mehdi.
Merci mon ami de toujours. Je t'embrasse très fort et bonjour à tous les auditeurs.
Allez, on t'embrasse très fort aussi. À bientôt Mehdi, ciao.
À bientôt, je t'embrasse, bye bye.
Alors, d'après le légiste, il s'agit d'un homme âgé entre 25 et 30 ans. Sa mort remonte à cette nuit entre 23h et 1h du mat. Vu la violence du choc, ça ressemble à un accident ou un suicide. Le visage est très abîmé. D'après son état général et ses vêtements, il semblerait que ce soit un marginal. Et pour répondre à ta question, il n'avait pas de papier sur lui, donc non, on ne sait pas qui c'est.
Bah, attends, fais voir,
j'ai Fred, c'est une mort suspecte, je peux pas te les donner, tu sais très bien.
Oh, mais arrête, Pierre, de faire ton premier de la classe, t'es chiant. Si ça se trouve, je vais reconnaître quelque chose. Attends, ça fait 10 ans que je tourne dans la région, j'ai une mémoire d'enfer, j'oublie rien.
Je photographie tout là-dedans. En plus, je connais tout le monde.
Allez, dans un instant, notre spécial Soudain Seul, Thomas Bideguin et Mélanie Thierry nous rejoignent. Alors, à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
All smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Yeah, yeah. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah.
Audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné, ça sort dans les salles mercredi, ça s'appelle Soudain Seul. Et on a la chance d'avoir le réalisateur qui est avec nous, Thomas Bideguin, qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Alain, ça va?
Ça va très très bien, très heureux de vous avoir. Et puis alors, joliment accompagné aujourd'hui avec Mélanie Thierry, qui revient dans Chut, on écoute la télé après La Vraie Famille il y a 2 ans. On est très heureux de vous réaccueillir à nouveau Mélanie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Un film que moi j'ai eu la chance de voir au Festival de Sarlat il y a quelques semaines. Et il est vrai que Mélanie, on souffre avec vous, avec ce personnage de Laura, tout au long du film, puisque le film raconte, c'est un peu un huis clos en quelque sorte sur une île déserte, entre Ben et Laura, qui sont partis faire un tour du monde sur un voilier, et jusqu'au moment où ils décident de faire une petite escapade sur une île pour découvrir un paysage et une vue imprenable sur des glaciers. Et puis malheureusement la météo va leur jouer des tours, et le mauvais temps va arriver plus vite que prévu. Et au moment où ils vont se mettre à l'abri, qu'ils vont vouloir en sortir, le voilier disparaît. Et c'est là que tout le film de survie prend sa dimension et prend tout son aura. Mais Thomas, où est venue cette idée folle?
Eh ben, j'avais envie de faire un film avec peu de comédiens et mais en même temps très large. Et donc c'est pour ça d'où l'idée de l'île. Et puis j'ai découvert le livre d'Isabelle Autissier, qui est navigatrice mais aussi écrivaine et qui a écrit un livre qui s'appelle Soudain Seul. C'est l'histoire d'un couple sur une île déserte. Et ça m'a intrigué. Et alors là, je suis allé voir Isabelle, j'ai pris les droits du livre et on l'a adapté. Et puis on allait tourner ça dans les pays. Paysage très minéré, immense et vide. Il y a quelque chose, effectivement, vous l'avez dit, c'est un huis clos de couple, mais c'est aussi un film d'aventure, un film un spectacle.
Et oui, et puis comment aussi, on va dire, les consciences se révèlent, justement, quand on a affaire à la survie, où des fois, on met les choses à plat. Dans le couple, il y a plein de choses, en fait, il y a plein de sentiments différents qui viennent s'entremêler. Comment on se prépare à un tournage comme ça, face à la rudesse des éléments, face à peut-être un tournage sur plusieurs saisons, j'en sais rien, mais en tout cas, comment on se prépare à un tournage aussi physique?
On se prépare pas forcément. On se jette dedans parce que c'est le principe que finalement ça tombe comme un couperet. On se retrouve un peu dans la même position que nos personnages, à la fois être totalement ébloui par l'endroit où on nous emmène. Il se trouve qu'on a tourné en Islande pendant des semaines et des semaines et que c'est un endroit absolument étourdissant de beauté, de puissance, de c'est vibrant, c'est une terre comme ça très très mystérieuse et très mystique. Où... Et puis petit à petit, on se rend compte que elle est tout aussi hostile et qu'il va falloir l'affronter et tout comme il va falloir affronter cette survie et faire en sorte que leur couple et la survie de leur couple puisse résister à cette situation peu banale, quoi.
Oui, c'est vrai que le couple est mis à rude épreuve dans ce genre de situation. Et des fois, c'est compliqué, effectivement, à vivre quand on est que deux sur une île.
Effectivement, là, il y a tous les dossiers qui sortent. Et du coup, c'était ça. C'était un peu ça, au moment de l'écriture, au moment de la réalisation du film. Il va falloir se questionner. Ils sont perdus, là. L'hiver approche, en plus. L'île devient de plus en plus hostile. On va se questionner sur leur survie personnelle, mais aussi sur la survie du couple. Est-ce qu'un couple peut résister à une telle épreuve? Il faut aller voir le film pour le savoir.
Exactement, et ce qui résistera jusqu'à la fin. Vous serez en tout cas tenu en haleine. Comment on organise un tournage pareil, Thomas ?
Oh là, c'est compliqué. C'est compliqué, on aurait dû faire un café.
Un making-of pour la sortie DVD.
On aurait dû faire le même film, mais entre un café, vous voyez, dans le café, dans le salon, dans la cuisine, dans l'escalier. Non, là, il n'y a pas de salon, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de café. C'était difficile. J'avais envie qu'on aille dans des endroits où tous les matins, en arrivant sur le tournage, on puisse se dire « waouh ». Qu'on soit épaté par la nature. Ces endroits, mais ils sont difficiles à atteindre, et puis il a fallu construire, il a fallu amener toute une équipe là-bas. Ça n'a pas été un tournage très confortable. Et je crois que les films racontent un peu l'histoire de leur tournage, et du coup, si on veut faire un film d'aventure, il faut que le tournage en lui-même soit une aventure.
Il faut mouiller ou glacer la chemise, voilà, comme on veut. Hein. On va écouter la bande-annonce, ça s'appelle Soudain Seul, ça sort mercredi dans les salles, et on revient juste après avec vous deux, à tout de suite.
Le bateau est plus là. On fait comment sans bateau? Tu m'écoutes, là, je te parle!
Je sais pas ce qu'on va faire, voilà!
Faut juste tenir, quoi.
Alors, on est quel jour?
Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté. Ben, il faut qu'on se barre d'ici.
Allez, de retour pour notre spécial Soudain Seul. On le disait, Mélanie, il y a un troisième personnage à part entière, c'est cette île. Quand on débarque pour la première fois dans ces paysages, qu'on sait que on va être amené à travailler là pendant des semaines, dans ces paysages magnifiques, rustes à la fois, qu'est-ce qu'on se dit quand on découvre ça pour la première fois?
Mais c'est ce que je vous disais, c'est à la fois on trouve que l'endroit est magnifique et éblouissant de beauté, et puis petit à petit on est confronté à l'hostilité du lieu, et puis on est finalement on chausse un peu les chaussures de nos personnages, on est dans la curiosité et dans la découverte au démarrage du film, hein, ce qui semble bien normal, et puis au fur et à mesure on fatigue d'être toujours au même endroit, de se sentir coincé, d'avoir l'horizon totalement bouché, et ça devient quelque chose d'extrêmement pesant finalement, qui atteint même quelque part le moral, quoi. Moi, les premières semaines, j'étais très enjouée. Je crois que les dernières semaines, j'étais raide, hein, j'étais dure. J'étais pas fastoche, quoi. Hein.
Comment on se remet justement d'un tournage comme ça? Justement, avec la nature, les éléments, on se remet assez vite de tous ces paysages magnifiques qu'on a pu, en tout cas, sublimer dans ce tournage.
Non, mais on a toujours envie d'aventure quand on fait un film. Et là, il s'agissait vraiment de cette promesse-là. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de se lancer dans cette aventure. Mais après, moi, quand un film s'achève, je suis jamais malheureuse. J'ai l'impression que la mission est accomplie.
Physiquement peut-être et moralement.
Physiquement, on se prend un bon bain.
C'est une scène du film, ça.
Et puis on est heureux de retrouver la maison et on passe à autre chose. Moi, je vais pas. Je veux dire, oui, on est rincé. Évidemment, on est rincé. Mais on a eu un sentiment quand même d'avoir réussi à. Bon, il y a un aboutissement à tout ça, quoi. Donc on repart à la maison, mais en se disant qu'on revient avec quelque chose de pas mal quand même. Et puis c'est toujours, ça fait du bien. Je veux dire, un film c'est fait justement pour que ce soit
une parenthèse,
c'est le principe.
Thomas, quand vous avez adapté ce roman d'Isabelle Autissier, Mélanie et Gilles se sont imposés tout de suite en tête?
Quand j'écris, je pense pas vraiment à des comédiens. Mais une fois qu'on avait fini d'écrire, là, oui, il fallait réfléchir à qui pour incarner les deux comédiens. Le premier à le lire, ça a été Gilles. Il m'a dit oui dans l'heure. Donc ça a été formidable. Ensuite, on a parlé avec Gilles et il avait jamais tourné avec Mélanie. Et quand Mélanie a accepté, ça a été un bonheur. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de tourner avec Mélanie et Gilles, les deux, parce que c'est des soldats très différents l'un de l'autre, mais qui se donnent vraiment, qui avaient envie d'aventure, qui avaient envie d'y aller. Et puis, vous savez, il y a un truc qu'on ne calcule pas, qui est comment est-ce qu'ils vont s'entendre.
Vous ne connaissiez pas du tout avant Mélanie, vous n'étiez jamais croisés sur un plateau, rien?
Non, on ne se connaissait pas du tout.
La magie a opéré assez rapidement du coup.
Oui, c'est ce que dit Thomas, on mesure pas en fait. Alors certainement qu'instinctivement, il s'est dit que le couple fonctionnait en tout cas à l'image. Mais après, c'est un ping-pong dans le jeu. Est-ce que ça va bien se répondre? Est-ce que ça va bien rebondir? Est-ce que ça va pas se marcher sur les pieds? Est-ce que chacun va réussir à trouver sa place? Faire en sorte que l'autre existe aussi? Je veux dire, c'est toutes ces petites choses-là, en fait. Et quand on n'est que deux, ça aurait été compliqué. Mais là, j'ai eu un partenaire vraiment de rêve, quoi. Moi, Gilles, je veux dire, c'était merveilleux, quoi. On a passé 8 semaines. Tout était simple, tout était évident. Aussi bien dans le jeu que dans la vie, c'était formidable, quoi.
Quelles ont été les scènes peut-être que vous redoutez le plus ou qui ont été les plus difficiles pour vous à tourner, tous les deux? Alors Thomas derrière le combo, évidemment, plus.
Alors derrière la caméra, qu'est-ce qui était difficile?
On a flingué un nombre d'écrans avec la pluie et tout ça, mais incalculable, quoi. Ah oui, ça...
J'ai eu peur à un moment donné. Ah oui. On va quand même spécifier qu'aucun animal a été maltraité durant ce tournage, mais j'ai eu très peur au début de la phrase de Mélanie.
Un nombre de manchots. Les manchots, ils y ont passé, et puis je disais, allez, action, et puis là, bam, encore deux manchots. Non, aucun manchot n'a été maltraité pendant le film, mais il joue un rôle très important dans le récit. Non, ces scènes-là il y avait certaines scènes d'action, et puis c'était pas des scènes très compliquées, peut-être en soi, mais face à l'hostilité de la météo, face au vent, face à la pluie, il fallait se réinventer à chaque fois.
Mélanie?
Oui, je crois que c'est ça que je n'ai pas autant soupçonné et mesuré avant le début du tournage. C'est que je savais qu'on allait avoir un froid, je savais qu'on allait même avoir un peu faim, hein, parce que bon, il n'était pas question qu'on bouffe comme des cochons. Hein. On essayait quand même d'avoir un régime qu'on suivait. Après, on mettait des couches et des couches sous nos pantalons et nos manteaux tellement on caillait. Alors du coup, on voit pas qu'on fond. Mais bon, peu importe. Mais c'est vrai que quand il pleut, c'est pas un petit grain, quoi. C'est une pluie. Moi, je savais pas ce que c'était qu'une pluie pareille. C'est pas même une grosse pluie en France, ça n'a rien à voir avec la pluie là-bas. On est d'accord.
On a tourné des scènes où la pluie est tombée à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de vent, et elle pénètre dans tout, et elle est glacée. Enfin,
c'était dur.
Si à la télé vous aimez Koh-Lanta, ben vous allez voir tout le contraire, justement de ce que c'est vraiment une survie et de comment se joue une survie, dans ce couple qu'on va découvrir dans Sous d'un seul mercredi au cinéma, dans les paysages magnifiques de l'Islande, même si l'histoire est censée se passer au pôle sud, hein, voilà, on spécifie.
Exactement, au pôle sud.
Magie du cinéma.
Absolument, la grande magie du cinéma et la grande magie du grand cinéma. Merci Alain.
Merci beaucoup Thomas. Merci Mélanie.
Merci.
Et mercredi, on va au cinéma voir Sous d'un seul, on se requitte avec un extrait.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, spécial La fille de son père, le nouveau film d'Erwan Leduc qui sera avec nous, avec Maud Wheeler qui sera notre invité. On parlera également d'une soirée spéciale Rembobina sur LCP avec Daniel Goldenberg, le créateur de Papa Poule, à l'occasion de cette soirée. Alors surtout, ne manquez pas, c'est lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.